France Musique.
Bonsoir Lionel Esparza, on vous retrouve lundi prochain en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités et je vous souhaite un bon week-end.
This is an electronic instrument that I have.
Tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique.
Moi j'ai besoin de créer.
Moi j'ai trahi la musique respectable, concrète. Et le violoncelle de mon enfance, pour le magnétophone et pour le potentiomètre.
C'est Hélène de Villeneuve qui sera l'invitée de cette émission. Elle viendra nous parler de son nouvel opus discographique, de son instrument, le hautbois, et de son parcours en rencontre avec la musique de création. Mais je vous propose d'ouvrir ce tapage nocturne avec une madeleine sonore composée en 1937 par Olivier Messiaen.
Tapage nocturne. Bruno Le Thor. France Musique.
En cette année d'exposition universelle, ou plus exactement d'exposition internationale des arts, des techniques appliquées à la vie moderne, qui se tenait à Paris du 25 mai au 25 novembre 1937, Olivier Messiaen compose la musique pour un spectacle Son et Lumière, présenté le long de la Seine. Cette œuvre, baptisée pour l'occasion Fête des Belles Eaux, fait appel à une étonnante nomenclature de 8 tons de Martenot. Quelques années plus tard, Messiaen en extrait deux mouvements, les fusées pour composer une partie de son célèbre quatuor pour la fin des temps, et l'eau, l'un des 8 thèmes qui constituent cette pièce, dont il fait une nouvelle œuvre qu'il baptise « Oraison ». Drôle de destinée que cette pièce, qui se retrouvera dans la bande originale du film The Revenant, un film signé Alejandro González. Oraison d'Olivier Messiaen par l'ensemble d'Ondes Martenot de Montréal, un enregistrement de 1992 paru sur le label Sub Rosa. Hélène de Villeneuve est oboïste et militante d'un subtil mélange de musique de création et de grandes pages du répertoire de compositeurs connus ou moins connus. Dans son dernier enregistrement paru sur le label Clart, elle dresse un panorama de la musique française allant du mystérieux Destenay à Henri Dutilleux en passant par Bozza et Poulenc avec une sonorité irradiante. Portrait d'une musicienne hors des sentiers battus. Bonsoir Hélène de Villeneuve.
Bonsoir.
Alors vient de paraître sur le label Clart un disque consacré à la musique française. Existe-t-il une singularité de la littérature musicale française pour hautbois ?
Pour le hautbois précisément, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est vrai qu'il existe un langage propre à la musique française et propre aux instruments avant. C'est vrai que Poulenc, Dutilleux, Bozza, ce sont des compositeurs qui ont aimé écrire pour plusieurs instruments avant et qui ont fait souvent des séries de sonates. Alors après, pour le hautbois, est-ce qu'il y a un langage vraiment particulier ? Je ne dirais pas ça. Je trouve que chacune des sonates a des tonalités personnelles et particulières. La sonate de Poulenc pour flûte ne ressemble pas à celle de clarinette et ne ressemble pas à celle de hautbois. Pareil pour celle de Saint-Saëns, même si je ne l'ai pas enregistrée cette fois-ci, mais ce sera peut-être un autre jour. Mais pour le hautbois, non, je ne trouve pas qu'il y a de style particulier. En revanche, j'aime bien la patte de chacun de ces compositeurs dans ces œuvres-là.
Thank you.
Pourquoi ce choix de cet instrument? Qu'est-ce qui vous a poussé à l'origine à aller vers cet instrument?
À l'origine. Alors, obligatoirement, il y a quelque chose d'inconscient, parce que quand on est un enfant, on conscientise pas tout, peut-être sur un choix. Je crois que c'est sa sonorité qui m'a plu. Sa sonorité, ce côté solaire. Je sais que c'est lié à l'écoute de piccolo, saxo et compagnie. J'avais des parents qui étaient très, qui sont toujours d'ailleurs très mélomanes et très, conscient de l'importance de l'art pour l'éducation des enfants. Donc on écoutait beaucoup de musique à la maison, tous les concerts de France Musique, etc. etc. Donc piccolo, saxo et compagnie, Pierre Leloup tournait un peu en boucle quand ma sœur et moi, on était petites filles. Et voilà, c'est tombé sur le hautbois, très précisément, je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis ravie.
Alors dans ce disque, vous époustez un peu les étagères avec notamment Édouard Destenay, compositeur peu connu à la biographie mystérieuse.
Exactement. J'aime bien faire découvrir et découvrir moi-même des nouvelles pièces et des nouveaux compositeurs. Ce jour-là, c'était un peu un challenge. On était invité avec Nicolas Balderoux à faire un stage, l'académie de Tignes qui se passe tous les étés dans les Alpes. C'est une académie d'enseignement. Et on s'était dit, on aimerait bien jouer quelque chose ensemble. Qu'est-ce qu'il y a pour hautbois, clarinette et piano? On était un peu dubitatif. Donc on s'est mis devant l'ordinateur et on a cherché. Et à chaque fois qu'on tapait hautbois, clarinette, piano, sortait Destenay. On s'est dit, mais qui c'est ce monsieur?
Qui est ce compositeur?
Voilà. Et donc par chance, la partition était en chargement libre sur un site bien connu
qui commence par I.
Qui commence par I avec des M, des S, des L, des P. Et donc on a pu comme ça le lire et ça nous a plu parce qu'on a trouvé qu'il y avait quand même une touche assez romantique, qui changeait finalement de la tonalité des autres pièces. Il y avait quelque chose d'assez un peu post-fourré, qui était très généreux, très romantique, et ça nous a plu. Et puis en plus, on a quand même un instrument, enfin nous, le hautbois, la clarinette a un instrument plus généreux que nous, mais le hautbois, on n'a quand même pas énormément de compositeurs. On est toujours à la recherche de certaines pièces, et c'est toujours un challenge de sortir des 3 ou 4 mêmes sonates et des 3 ou 4 mêmes concertos. Donc on s'est dit, une pièce de valeur d'un compositeur pas connu, et ben ça étoffe notre répertoire, c'est banco pour tout le monde. Donc, et en plus, on a pris beaucoup de plaisir à le jouer parce qu'on trouve que c'est une belle pièce.
Thank you. C'était un premier enregistrement ?
Alors, il existe un enregistrement, c'est un premier enregistrement français. Il existe un enregistrement avec des collègues anglais, dont Nicolas Daniel au bois, mais que j'ai découvert d'ailleurs, que j'ai su que cet enregistrement existait beaucoup plus tard, enfin une fois qu'on avait déjà fait le nôtre, et que donc j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'il y avait cet enregistrement de Nicolas Daniel. Mais en France, c'est le premier.
Alors parlez-nous un peu de ce compositeur, vous avez appris sur lui ?
Eh bien écoutez, voilà, je sais que c'était un officier militaire qui a une vie un petit peu mystérieuse, il n'y a pas quand même beaucoup d'éléments biographiques, on n'en trouve pas grand-chose. Il a écrit pas énormément d'œuvres, ou alors peut-être qu'il en a écrit beaucoup et puis qu'elles ont disparu. Mais enfin, j'ai trouvé que c'était... C'est pas un compositeur très connu. Il n'a pas fait vraiment école, mais il a fait quelques pépites. Et alors, pourquoi il a écrit pour le hautbois, la clarinette et le piano ? Ça reste un mystère. Mais
pour vous ?
Pour nous, voilà, c'est ça.
Alors, autre compositeur peu connu du grand public, Pierre Sancamp, qu'on connaît plutôt comme professeur de piano,
oui.
Qui fut un professeur de piano très important,
oui.
Avec un nombre d'élèves
remarquable,
qui, ouais. Qui couvre une trentaine d'années au conservatoire. L'œuvre que vous proposez là est assez debussiesque.
C'est vrai, hein. C'est vrai qu'il y a des harmonies, je trouve, très recherchées, des tonalités, des... Il a quand même son langage à lui, même si on ressent toute une époque et tout un monde de musique française. Je trouve aussi c'est bien de mettre en avant un compositeur comme cela, parce que en effet c'est un pianiste. Je crois que c'est un pianiste formidable. En effet, c'était un pédagogue, donc plus rien n'est à prouver. Et il a fait quelques sonates pour instrument avant, quelques pièces pour piano, etc. Nous, en tant que oboïstes, on la connaît bien, cette sonatine, parce que c'était une des pièces écrites pour le concours du conservatoire. Donc ça fait partie de notre répertoire. Mais en revanche, je trouve que ça fait partie de ces pièces qui sont connues dans le cercle des oboïstes ou voire le cercle des instrumentistes avant, mais qui n'est pas obligatoirement connue par le grand public. Et c'est dommage, parce que je trouve que c'est une pièce qui est très bien écrite, qui a de la valeur. Et en plus, avec ces trois mouvements très diversifiés. Son premier mouvement, qui est avec vraiment des grandes arabesques, quelque chose de très... une sorte de mélisme. Puis le deuxième, qui est une grande mélopée, qui va vraiment dans des sommets des notes très aiguës du hautbois, puis après qui se calme. Et puis un dernier mouvement très virtuose et très un peu comme une petite plaisanterie. Je trouve que c'est très différencié, très caractérisé. Et je trouve que c'est ça de la valeur.
Thank you.
Comment voyez-vous l'évolution du hautbois, justement, depuis que vous avez commencé, aussi bien dans sa facture que dans la technique?
La facture continue à évoluer, bien sûr. Mais elle était déjà, on va dire, depuis les années 50, la facture est quand même assez au point. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on perfectionne maintenant plus, on va dire, le hautbois d'amour, plus le cor anglais, etc. Et puis, suivant les écoles stylistiques, on va chercher peut-être un son un peu plus sombre, un peu plus doux, alors que dans les années 50, c'était des sons un petit peu plus timbrés, on va dire. Voilà, donc après, l'école française des bois continue à être une école remarquable et qui continue à attirer tellement de monde. Et j'ai la chance de le voir maintenant que je suis enseigne au CNSM à Paris, de voir le nombre d'étudiants européens qui veulent venir travailler en France, au CNSM de Paris, et à Lyon, je sais que c'est pareil, pour faire des échanges. Donc, tant en hautbois, en flûte, en clarinette, en basson, en saxophone, il y a vraiment énormément de jeunes qui veulent venir travailler cette école française. L'école européenne, on va dire, même voire internationale, c'est un peu unifié du fait, ben, on le sait tous, quoi, de l'écoute beaucoup plus facile, des concerts, des orchestres du monde entier, etc., etc.
Les échanges entre les conservatoires également.
Voilà, les échanges entre conservatoires. L'école s'unifie, on va dire, s'harmonise, on va dire, entre tous les pays. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours quand même des personnalités merveilleuses. Et puis, le niveau d'homogénéité générale, je trouve, est de plus en plus... Je ne peux pas dire de plus en plus fort, parce qu'on a toujours eu des musiciens absolument extraordinaires. Mais j'ai envie de dire, le noyau commun, c'est un niveau qui peu à peu monte de plus en plus. Il y a vraiment des musiciens jeunes... de plus en plus complet, j'ai envie de dire, par leur formation, beaucoup plus axée sur la musique baroque, sur la musique contemporaine. Il y a moins de... Enfin, toutes les portes sont beaucoup plus ouvertes, je trouve, en ce moment. Et ça, je trouve que c'est un enrichissement qui est vraiment remarquable.
Vous enseignez, vous venez d'en parler plusieurs fois.
Oui.
Quelle place ça a dans votre démarche, cet enseignement?
J'aime beaucoup ça. Depuis toujours, je crois que c'est ma première place d'enseignement. Je l'ai eu, que je crois, quand j'avais 16 ans. C'est quelque chose qui... Mes deux parents sont professeurs, ils étaient professeurs, mais dans l'éducation nationale. Je pense que la pédagogie était quelque chose dont on parlait, sans savoir que c'était le mot pédagogie, mais la transmission, l'envie, le fait de faire découvrir des choses. Et pour moi, toujours maintenant, c'est un échange et c'est un enrichissement. Ce que j'apprends sur moi-même, par l'orchestre, par mon travail personnel, j'ai envie de le donner, j'ai envie de le faire passer. Et puis ce qu'ils m'apportent par leurs questions, par leurs questionnements, par leurs doutes, par leur envie, ça m'enrichit aussi parce que j'essaye toujours de trouver des solutions, de leur apporter quelque chose. Et puis c'est aussi des rencontres humaines, c'est des rencontres de personnalité. Et ça, à n'importe quel âge et à n'importe quel niveau, c'est très enrichissant. Surtout quand on sent cette envie qui est forte et cette demande. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
Hélène de Villeneuve, parlez-nous un peu de vos projets, de vos envies.
Eh bien écoutez, après la sortie de ce disque qui, j'ai l'impression, a eu un bon accueil et en tout cas pour lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer et j'ai toujours autant de plaisir à en parler. Mon prochain projet qui est en train de mûrir dans ma tête, ce serait de faire un disque de musique contemporaine. Alors, je ne suis pas encore très fixée. Est-ce que j'ai envie de faire de la musique romantique pour hautbois et piano ou alors un disque de musique contemporaine pour hautbois et piano? Pour le moment, je penche un peu plus vers cette direction. Du fait des échanges que j'ai eus avec les compositeurs, Marc-André Dalbavy qui m'a dédicacé une pièce, aussi j'ai travaillé avec Martin Matalon, Philippe Hurel est en gestation de concerto pour au bois, donc j'aime et je continue toujours à avoir. Il y a Frédéric Durieux qui m'a envoyé encore avant-hier des enchaînements de multiphoniques pour savoir si c'était possible, etc. Donc j'aimerais montrer toutes ces pièces que j'aime et construire un disque autour de ces compositeurs. Donc voilà, c'est en réflexion, en gestation, mais j'ai envie. Je pense que ce sera mon prochain projet.
Thank you.
France Musique, Tapage Nocturne, Bruno Le Thor.
Vous avez beaucoup œuvré dans le domaine de la musique contemporaine. Je me souviens notamment d'enregistrements de Griset et de Dufour.
C'est vrai.
Avec Court-Circuit et l'ensemble Fa. Ça représente quoi pour vous la musique contemporaine?
Alors, moi je vais vous dire, c'est quelque chose qui m'a tellement apporté et qui m'a vraiment libérée. C'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais au conservatoire. Comme tout le monde, j'ai travaillé la sequenza de Berlioz et puis différentes pièces. Assez vite, c'est l'ensemble itinéraire en premier qui m'a demandé de venir faire des remplacements chez eux. J'ai aimé cette liberté de ton, cette liberté de création. Pour une fois, quand on est étudiant, je trouve, et j'essaye maintenant d'inculquer ça à mes élèves, je trouve qu'on est assez vite dans une sorte de carcan en disant ça c'est un joli son, il faut jouer comme ça, écoute tel enregistrement et tel ça. Et il y a parfois, on a des aînés qui sont tellement merveilleux que ça peut, quand on a sa personnalité, sa propre personnalité musicale qui est en train de se construire, ça peut être parfois un petit peu, on dirait, mais jamais j'arriverai à faire aussi bien, ou c'est vraiment, ils sont tellement formidables, qu'est-ce que je peux amener, moi, petit étudiant encore, comme pierre à l'édifice. Et ce que j'ai aimé dans cette musique-là, c'est qu'il y avait encore tellement de choses à découvrir. D'abord, la rencontre avec les compositeurs, des échanges, qu'est-ce qu'on peut faire avec un hautbois, montre-moi tel son, montre-moi telle chose. Il y avait, les compositeurs sont évidemment très en demande qu'on leur montre ça, et puis aussi très en demande qu'on leur montre qu'on aime leurs pièces. Et je me suis piquée au jeu. Au départ, c'était un peu un challenge, parce que généralement, ce sont des pièces quand même assez difficiles, et puis c'est pas le langage auquel on est habitué depuis la petite enfance. Il y a quand même des doigtés de sons multiphoniques, c'est-à-dire un doigté qui joue sur les harmoniques de l'instrument, où il y a plusieurs sons qui sonnent en même temps. Donc c'est des techniques particulières, des doigtés particuliers, des techniques de double détaché. Enfin, c'est plein de choses qui sont spéciales, qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'apprendre. Donc c'était un peu des langages nouveaux à apprendre, comme si on apprenait une langue étrangère. Et puis, c'est un moyen où on peut vraiment s'exprimer, parce qu'il y a tout à créer, il y a tout à faire. Et puis, j'ai aimé ces rencontres avec les compositeurs, cette ambiance d'émulation, de création. J'avais beaucoup travaillé avec les compositeurs à l'IRCAM pour déjà faire des échantillonnages de sons, mais aussi avec Bonnie, etc., qui cherchaient, qui étaient en pleine création eux-mêmes pour leurs pièces. Et j'ai gardé un souvenir d'un esprit joyeux avec plein d'enthousiasme et de création. Et de création dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'envie différente. Et ça m'a toujours plu. Pour moi, c'est une bouffée d'air, la musique contemporaine.
Merci beaucoup, en tout cas, Hélène de Villeneuve, d'être venue nous parler de cet enregistrement.
Merci, Bruno.
Et à bientôt.
Merci bien. À très bientôt.
partielle de Gérard Griset par l'ensemble Court-Circuit sous la direction de Pierre-André Valade, un ensemble dans lequel on pouvait entendre Hélène de Villeneuve au hautbois, l'invitée de ce tapage nocturne. Ainsi s'achève cette émission. À la technique était ce soir Dimitri Scapolan, réalisateur Bruno Rioux-Maillard, attaché d'émission Soizic Noël. Il est l'heure de retrouver Création Mondiale, l'émission d'Anne Montaron.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.